En préparant ce message, j'ai beaucoup pensé cette semaine à nos jeunes, particulièrement les préados et les ados. Ils sont pas trop nombreux ce matin, mais il n'empêche qu'on les a beaucoup à cœur. Et évidemment, en écoutant ce message, vous pouvez vous dire, bon, je parle des 11-14 ans. Vous pouvez vous dire, oh là, ça me concerne pas, moi j'ai rien à reconstruire. Mais non, seulement vous, vous êtes en train de construire tout court. Donc, ce message vous concerne aussi parce que la façon dont vous allez construire votre ville, votre vie, ça va rester et ça va rester longtemps. Et si vous saviez le nombre d'adultes qui ont des soucis aujourd'hui parce qu'ils ont eu des problèmes de construction entre 11 et 14 ans. Donc essayez de pas avoir de problèmes de construction, d'avoir des trucs solides sur lesquels bâtir, parce que on retrouve toujours ce qu'on a construit dans son enfance. Alors quand on est jeune, on pense que c'est pas tellement important la façon dont on a construit. Et c'est seulement plus tard qu'on se rend compte, misère, c'était hyper important. Donc ce message vous concerne aussi. Grâce à Dieu, vous avez probablement pas de choses à reconstruire, mais bien qu'il y en a quelquefois un petit peu. Mais en construisant, pensez-y. Construisez bien pour que ça tienne bien droit et que la muraille puisse être bien solide. Donc on s'était arrêté la dernière fois en parlant de Tom Bloomer, orateur de Jeunesse en Mission, qui était venu et qui avait dit « Une église unie et qui travaille, l'ennemi ne peut rien contre elle. » Parce que Jésus a dit « Les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. » Et c'est une assurance qu'on a avec le Seigneur. Donc on avait vu que toutes les tribus, enfin tous les juifs étaient autour de la muraille et ils rebâtissaient. Ils avaient des sections d'environ 80 mètres en moyenne et ils étaient là avec les enfants, les femmes, les serviteurs. Et vous savez, ils étaient les familles aujourd'hui, c'est papa, maman et un ou deux enfants ou trois. Et maintenant, c'est des petites familles, mais à l'époque, c'était des grandes familles. Et il y avait les oncles, les tantes, les grands-oncles et les grandes-tantes. Donc il y avait du monde hein, pour chaque famille qui est nommée. Et du coup, le travail avance vite, vite, toute proportion gardée, vu les 3-4 kilomètres de muraille hein, qu'il y avait à réparer. Mais plus vite que, je pense, les ennemis ne l'imaginaient. Pour nous, c'est jamais assez vite, mais pour l'ennemi, c'est beaucoup trop vite. Qu'est-ce que c'est que ça? Et au début, ils s'étaient contentés de se moquer, mais maintenant, ils commencent à prendre peur, ça leur fait ombrage. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ça va peut-être, ils vont peut-être prendre un pouvoir plus important, ils vont nous faire concurrence, ils vont, au niveau des marchands qui passent, Jérusalem était sur une route de caravanes. Alors c'est pas les caravanes Trigano, hein, c'est des files de marchands qui venaient avec des chameaux, etc. Ça qu'on appelait une caravane. Et donc ils s'arrêtaient à Jérusalem, c'était une plaque tournante, et puis comme Jérusalem était détruite, ils avaient un petit peu détourner leur route, et là, ils allaient reprendre. Donc, ça faisait de l'ombre au peuple autour, et les ennemis autour commençaient à avoir peur. La jalousie, la peur, tout ça, ça alimente hein, l'opposition. Le travail avance trop vite pour eux. Alors, effectivement, la muraille arrive à la moitié de sa hauteur. Et ça m'a fait un petit peu réfléchir. Je me suis dit, bah, c'est déjà pas mal, hein, parce que c'était quand même très haut. Donc, la moitié de la hauteur, c'était plus grand que la taille d'un homme, certainement. C'est curieux. Pourquoi la Bible s'arrête là, sur la moitié de la hauteur? Et c'était l'assurance d'une certaine sécurité. Et plutôt que de faire la muraille jusqu'en haut par section, ils avaient choisi de boucher toutes les brèches et quitte à ne faire que la moitié de la hauteur. Je sais pas si vous voyez où je veux en venir. C'est que une muraille autour d'une ville, si j'ai des pans de mur qui font 10 mètres et des trous n'importe où, ma ville, elle aura beau avoir des magnifiques murs de 10 mètres. Les trous, ça suffit, hein, c'est comme une chaîne. Quand il y a un maillon de cassé, la plus grosse chaîne du monde, elle vaut plus rien. Il faut que tous les maillons soient solides. Et les murailles d'une ville, c'est la même chose. Et du coup, j'ai réfléchi un petit peu sur les brèches et j'ai lu quelque chose d'intéressant sur les brèches qu'on peut avoir dans nos vies. Et c'est un théologien, je crois, allemand, qui a écrit ça. À quoi nous servent de grandes envolées vers les sommets de la connaissance théologique ou de la spiritualité si nous négligeons nos brèches? Donc on peut faire des choses et dire des choses grandioses, mais si on néglige les brèches dans nos vies, on est mal parti. Et c'est vrai, imaginez cette muraille, hein, s'ils avaient fait des beaux murs et puis ils avaient laissé des grands trous. C'était ridicule. Et il citait ces brèches. Je les ai notées pour vous parce que j'ai trouvé que ça me parlait. Il dit par exemple, les brèches qu'on peut avoir dans nos vies, c'est les brèches dans l'obéissance. Ça, c'est un gros mot, surtout en France, l'obéissance. Hein, toute notre vie, c'est un problème, hein, avec les parents, avec les profs, avec les patrons, avec... on est bien français, hein. Et quand on a une brèche dans l'obéissance, ça va mal. Le meilleur exemple, c'est Adam et Ève. Ils ont cassé ce maillon, hein, de la relation avec Dieu. Ça nous amène bien des chutes et bien des échecs dans la vie. Et dans la vie sociale aussi, dans le travail, dans les études. J'ai remarqué que les élèves qui ont souvent le plus de problèmes à arriver au collège, c'est ceux qui ne veulent pas obéir. Mais qu'est-ce qu'il a? Pourquoi il me demande ça? Et ça sert à rien et c'est ridicule. Hein. Et c'est un souci pour les échecs scolaires, le problème d'obéissance. Dans la vie, une brèche dans la vie de prière. Le meilleur exemple, c'est David, qui se distrayait au lieu d'aller à la guerre avec les autres, au lieu de faire son travail. Et le diable s'infiltre dans notre être intérieur, dans nos pensées et nos imaginations. Si on a une brèche dans notre vie de prière, on prie quand on y pense ou on prie pas, il s'agit pas de pointer du doigt et de dire auquel mauvais chrétien, c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est de dire aïe aïe aïe, si j'ai une brèche dans ma vie de prière, mes pensées, mon imagination vont galoper dans tous les sens et j'ai plus de garde-fou. C'est une brèche, l'ennemi peut rentrer. Le cas de David. Et il citait aussi la brèche dans l'esprit de vérité. Et il dit, ça peut être des petites brèches, distorsions des faits, un peu d'hypocrisie, un petit peu d'exagération, un peu de caricature. Une brèche dans l'esprit de vérité, ça peut casser une vie. Et l'exemple le plus horrible, c'est Ananias et Saphira. Ils n'ont pas totalement menti, mais ils n'ont pas non plus dit la vérité. Ils avaient effectivement vendu un terrain, mais c'était pas exactement... Le prix, ils en avaient gardé une partie pour eux, tout en disant qu'ils donnaient tout. Enfin, on arrange la vérité. Et une brèche dans l'esprit de vérité, c'est grave. Vous savez comment Ananias et Saphira ont fini. Ils sont morts, c'est quand même épouvantable. Attention, l'esprit de vérité, surtout à notre époque, où de moins en moins, on considère le mensonge comme un problème. Et ça m'inquiète d'ailleurs parfois, de voir, quand on en parle avec les enfants en cinquième, oh bof, on est obligé de mentir pour vivre. Ah. Je suis pas sûre. Les brèches dans l'amour fraternel, c'est elles qui causent les disputes, les divisions pour des riens, pour des petites choses. Je me souviens d'un pasteur qui nous avait raconté qu'il avait perdu pas mal de membres de son église parce qu'il avait changé les vers de la Sainte-Seine. Bon! Vous voyez, quand pour des petites choses comme ça, on peut se disputer, on peut se fâcher, c'est grave. Les brèches dans l'amour fraternel, c'est grave, ça peut mener loin. Et voilà. Le genre de brèche, mais il y en a d'autres. Je vous laisse y réfléchir. Et c'est bon parfois de se dire quelles sont les brèches dans ma vie, quels sont les points faibles de ma muraille. Les endroits peut-être, souvent, on peut commencer par regarder les endroits où on a souffert. Parce que c'est souvent là que les brèches se créent. Hein, il y a eu souffrance, il y a eu malheur, il y a eu épreuve. Ça peut créer des endroits fragiles dans notre vie. Et c'est bien parfois de dire, Seigneur, où sont mes brèches? Je veux les reboucher. C'est pour ça qu'on a fait le torrent qui purifie d'ailleurs. Hein. Et on peut le refaire parce que ça fera toujours du bien. Alors, à propos des murailles, on ne reconstruit pas notre âme quand on fait un travail de reconstruction ou de construction. On ne construit pas pour faire bien, pour que les autres aient une bonne opinion de nous. Ça, c'est l'esprit religieux. Ou que les gens qui nous entourent soient impressionnés. Waouh, t'as vu la hauteur de ces murailles, comme elles sont belles, comme elles sont bien nettoyées. Vous savez, moi, je raffole quand on nettoie les monuments. C'est un truc que j'aime, parce qu'on les retrouve comme ils ont été faits. Hein, quand ils ont fait la collégiale à Mantes, j'ai dit, oh, qu'est-ce qu'elle est belle. Je me souviens, quand j'étais petite, ils venaient de refaire l'hôtel de ville, qui était tout noir à Paris. Et là, quand il est sorti tout jaune, rosé, là, oh, qu'est-ce qu'il était beau, j'étais admirative. Et nous, en fait, on ne reconstruit pas notre âme pour faire bien, pour donner une belle image. Pour que les gens aient une bonne opinion. Ou que les gens soient impressionnés. Oh, les belles murailles, la belle hauteur, il n'y a plus de trous, c'est magnifique, etc. C'est pas le but. Ça, c'est l'esprit religieux. Pour impressionner les autres. Si on se reconstruit, c'est pas pour ça. C'est pour notre sécurité. Pour que l'ennemi ne vienne pas ravager notre ville quand il veut, comme il veut, et surtout par surprise. On va le voir tout à l'heure. Ce qu'il aime, c'est entrer par surprise dans une de nos brèches. Donc si on laisse des petits trous comme ça, là où il y a eu souffrance, là où... on laisse des accès, Il aime bien rentrer par surprise. L'accès qu'on donne à l'ennemi par les brèches de notre caractère ou de notre comportement, ou moins visible seulement dans nos pensées ou nos émotions, ça peut mettre en péril notre sécurité et notre bien-être, notre paix intérieure et celle des autres. Et là encore, j'ai eu deux conversations récemment qui m'ont poussé à redire des choses que j'ai déjà dites, mais qui sont terriblement importantes. Si Dieu condamne violemment le péché, des brèches dans notre vie, etc., ce n'est pas pour nous pénaliser, que ce soit vraiment clair. C'est pas pour nous punir, que ce soit tout de suite ou à retardement. C'est parce que lui, il sait à quel point le péché, la désobéissance à Dieu, si vous voulez, nous fait du mal immédiatement et à long terme. C'est dommage que l'esprit religieux de ces siècles passés, surtout, nous ait mis dans la tête cette image, on en a reparlé au moment des entretiens de baptême, que Dieu cherchait à nous punir. Et là, on en reparlait là avec les petits-enfants, quand j'ai dit... Il faut jamais dire à un enfant, le bon Dieu t'a puni, parce que il a couru, on lui a dit, cours pas, il y a des cailloux, il court, et puis boum, évidemment, il se casse la figure, c'est logique, c'est physique, et on dit, le bon Dieu t'a puni. C'est la dernière chose à dire. Parce que c'est pas vrai, Dieu ne passe pas son temps à chercher à nous punir. Il cherche à nous bénir. Mais c'est quand même pas tout à fait la même chose, Et il faut se retirer de la tête, c'est ce sentiment qui va nous punir tout de suite ou à retardement. Oh, il y a 10 ans, j'ai fait ça. Qu'est-ce que je regrette? Donc je reste dans la culpabilité. Ça déjà, ça va pas. Qu'est-ce que je regrette? Eh bien, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai tel et tel problème. Mais par quel bout? C'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les avoue et les délaisse, obtient miséricorde. C'est pas obtient une bonne punition 10 ans après. Vous voyez, il y a quand même un souci. Mais c'est gravé dans notre tête. Dieu va me punir. Et en fait, ce qui nous punit, c'est le péché, c'est le péché. Et c'est pour ça que Dieu est tellement sévère et nous encourage tellement à ne pas pécher, à ne pas laisser nos brèches ouvertes pour que l'ennemi en profite. Parce que c'est ça qui nous fait du mal. Ce sont nos brèches. C'est pas Dieu qui cherche à nous taper dessus. Et ça, je le répéterai jamais assez parce qu'il faut que je me le dise à moi-même, il faut que je le partage. Il faut qu'on arrête de penser ça. Dieu va me punir. C'est sûr qu'on va prendre un exemple. Vous savez, vous connaissez ce psaume qui dit « Ne t'assieds pas sur le banc des moqueurs ». Bon, pourquoi Dieu dit ça? Pour nous attendre au coin du bois à la première fois qu'on va se moquer de quelqu'un? Pas du tout. Mais parce qu'il sait très bien que si on s'assied sur le banc des moqueurs, si on passe son temps à critiquer, juger, se moquer des autres, on fait du mal aux autres, numéro un, et on se fait du mal à soi-même. On se verse du poison dans le cœur et dans notre forme de pensée. Et comme disait John Wimber, à force de jouer avec la porte, un jour elle claque sur nous, elle se referme. Et on est des moqueurs, complètement moqueurs. Et on peut pas voir quelque chose sans se moquer, on peut pas regarder quelqu'un sans le critiquer et sans moquer. Alors qu'est-ce que je lisais cette semaine? J'arrive plus à me rappeler où. C'est sur la pub des vidéos de... Comment elle s'appelle, ces films? De Pride and Prejudice. Ouais, Jane Austen. Et une phrase, je pense que ça vient d'un de ses livres, qui disait on est là pour se moquer de nos voisins, pour que nos voisins se moquent de nous et nous en retour se moquer de nos voisins. Waouh, quelle belle société, hein. Ça, c'est s'asseoir sur le banc des moqueurs. J'ai bien aimé cette phrase parce qu'elle n'est pas d'accord avec ça, mais elle l'a citée dans son livre, merci. Et ça, c'est s'asseoir sur le banc des moqueurs. On arrive dans une société où tout le monde se moque de tout le monde et tout le monde a mal et tout le monde a peur. Et on va vivre pour l'apparence, pour garder des belles apparences. Vous voyez, ça tord la vie du monde. On n'a plus une vie naturelle, normale, cool. Pourquoi parfois les gens ont tellement envie d'être cool? Mais parce qu'ils en ont marre de ce système. Pourquoi Dieu veut pas qu'on s'asseye sur le banc des moqueurs? Eh ben voilà. Parce qu'on arrive à des sociétés où on passe son temps à critiquer, à juger, à mordre les autres. Et en retour, on sait qu'on va se faire mordre. Donc, intérieurement, c'est pas évident à vivre. Voilà, c'est ça le péché. Je crois que c'est le meilleur exemple qu'on peut avoir. Pourquoi Dieu est tellement contre ça que vraiment, maudit soit l'homme qui s'assoit sur le banc des moqueurs? Bah oui, parce qu'il va être mal après. C'est pas que Dieu le poursuit avec un bâton, c'est qu'il se met dans le pétrin quand il s'assied sur le banc des moqueurs. Vous voyez? Et c'est vrai pour ça, mais c'est vrai pour plein d'autres choses. Dites-vous toujours que Dieu ne se venge pas sur nous. C'est pas parce qu'on a une brèche qu'il va chercher à se venger. Mais le problème, c'est que la brèche, elle est ouverte, Et n'importe qui peut rentrer, point. Laissez votre porte ouverte la nuit, surtout si vous habitez en ville. Vous verrez si c'est Dieu qui vous punit. Hein, franchement. Bon, ça marchera peut-être une ou deux fois, il se passera rien, mais prenez des risques, hein, quand même. Et c'est ça. Hein. C'est ça, là, le problème de la brèche. C'est ça, le problème du péché. Et c'est pour ça que le Seigneur dit, mais fermez vos portes, bouchez vos brèches. C'est pas moi qui vous attends pour vous taper dessus. Mais c'est vous qui invitez, comme disent les Anglais, ils le disent très bien, qui invitez les problèmes. Ils disent souvent, hein, vous invitez les problèmes. Mais c'est ça. Voilà. Que ce soit bien clair pourquoi il faut boucher les brèches. C'est pas un acte religieux pour faire bien, pour faire joli, pour avoir que les autres aient une bonne opinion de nous. Non, c'est pour notre sécurité. Sécurité dans nos pensées, sécurité dans notre cœur, dans nos émotions, sécurité physique aussi, hein. Donc le travail avance tellement vite, les brèches sont bouchées jusqu'à mi-hauteur. L'ennemi est furieux. Alors, je vais faire une petite revue des réactions de l'ennemi. Au chapitre 2, verset 10, on commence déjà à sentir que ça va pas bien. Ils prirent très mal le fait qu'un homme soit venu pour le bien des Israélites. Deuxième, c'est chapitre 2, verset 19, ils se moquèrent de nous et nous traitèrent avec mépris. Ils dirent, que faites-vous là? Vous rebellez-vous contre le roi? Ah, là, c'est plus seulement qu'ils le prennent mal. Ils se moquent, ils méprisent, et ils calomnient, en fait, hein. Vous voulez vous rebeller, hein. Vous avez un agenda caché. Ensuite, troisième étape, chapitre 3, verset 33, c'est Sanballat qui dit, il se fâcha. Il était très contrarié. Il se moqua des Judéens. Toujours la même méthode. Il dit devant ses frères et devant les gens importants de Samarie, que font ces Judéens minables? Minables. Vont-ils restaurer leur ville pour y offrir des sacrifices? Croient-ils achever en un jour? Redonneront-ils la vie à des pierres ensevelies sous de monceaux de poussière et incendiées? Et Tobija ajoute qu'ils bâtissent seulement si un renard s'élance, qu'il ouvrira une brèche dans leur muraille de pierre. L'ennemi ne supporte pas qu'on rebouche les brèches, qu'on relève nos murs de protection. Après la moquerie, les accusations de rébellion et le mépris, l'arme qui marche le mieux, parce qu'il y a des gens qui résistent bien aux accusations, il y a des gens qui résistent bien au mépris, à la moquerie, bien que quand on est jeune, la moquerie, c'est très difficile à encaisser. Mais bon, en vieillissant, on a la peau plus dure, mais il y a un truc qui marche jusqu'à 100 ans et au-delà, c'est le découragement. C'est le découragement. Surtout qu'il est fait sous forme de questions, pour appuyer là où ça fait mal. Sous-entendu, d'abord, ils sont trop minables pour faire quelque chose de bien. Bon, qu'est-ce qu'ils vont faire, hein, ces pauvres gens? Des orfèvres qui remontent une muraille. Laissez-moi rire. Ils sont pas capables d'y faire autre chose que des sacrifices. C'est ça que ça sous-entendait. Ah, c'est pour faire des sacrifices. Tout ce que vous savez faire, hein, c'est pratiquer votre religion. Autrement dit, bah, vous êtes pas capables de construire un habitat correct, de pratiquer du commerce, de gérer la ville, juste pour faire des sacrifices. C'est tout ce qu'ils savent faire, ces gens-là. Leur vie religieuse. Et ça, vous l'entendez parfois, hein, quand on travaille ou dans des collègues, oh, c'est des chrétiens évangélistes, au lieu d'évangéliques, ouais, tout ce qu'ils savent faire, c'est prier. Bah, vous voyez, ça n'a pas changé. Hein. Et puis, le découragement, ça va durer trop longtemps. Ils rêvent s'y croire y arriver. Ça prendra bien plus de temps qu'un jour. Ça va être long, très long. Vous n'allez pas vous en sortir comme ça. Ça, c'est un argument qui fait mal, hein. Parce qu'on est, en plus, on est dans un siècle où il faut tout faire vite. Ça va durer longtemps, la reconstruction. Oh, tu veux reconstruire ta vie, tu veux reconstruire ton couple, la situation au travail ou je ne sais quoi. Ça va être long. Alors ça, ça nous décourage, hein. Les pierres sont ensevelies dans la poussière, elles sont dures à récupérer. C'est impossible, vous n'allez jamais arriver à trouver suffisamment de pierres solides. Et puis elles ont été passées au feu. C'est inutilisable, tu vas pas y arriver. Et puis pour le comble après, l'heureux renard peut ouvrir les brèches. C'est pas la peine de construire, de toute façon c'est du travail pour rien. Le premier renard qui passe, il fiche tout par terre. Découragé, découragé, découragé. L'ennemi cherche toujours à nous encourager par les paroles des gens ou même pas par nos propres pensées. Et là, c'est embêtant parce que les paroles des gens, on peut choisir nos amis. Hein, c'était Colin Urquhart qui insistait là-dessus. Quand ça va pas, choisissez bien vos amis. Hein. N'allez pas avec des gens qui vont vous dire « Oh, moi j'ai eu la même chose » et puis « Oh là là, c'était grave, mon oncle il en est mort » et ainsi de suite. Non, c'est pas des amis comme ça qu'il faut quand on veut rester dans la foi. Donc ça, on peut faire attention, mais nos pensées, elles galopent. Et le diable s'en sert, t'es trop minable. Pourquoi chercher à te reconstruire? Tu veux plaire à Dieu? C'est juste un autre geste religieux. De toute façon, ça changera rien dans ta vie. Puis ça te prendrait beaucoup trop de temps de changer. Changer une situation, quoi. Puis qu'est-ce qu'il y a comme déchets dans ta vie, hein? Des années de négligence, des tas de décombres, tout a été brisé, tout a été enseveli, enfoui. Laisse tout ça comme c'est. Ça vaut pas le coup de changer. Tu veux changer? Ça va te prendre bien trop de temps. Puis tu y arriveras pas. Tu veux changer ta situation au travail? Ouh, c'est pas possible. Tu y arriveras pas. Puis d'ailleurs, tu sais, mon pauvre, t'as vécu des choses tellement dures. Le feu de l'épreuve t'a rendu friable, fragile. Tu peux toujours tirer avec ce que t'as, mais ça tiendra pas. Tout ça, ça ne sert rien. Si vous avez jamais entendu le diable vous dire ça, eh ben, vous avez beaucoup de chance. Comment Néhémie va réagir? D'abord, il répond pas cette fois-ci. Il discute pas, il se justifie même pas. Moi, j'aurais eu envie de dire quand même. Il n'explique rien, il se défend même pas pour protéger les gens. Il n'en parle pas avec le peuple ni avec ses amis. Pourtant, ça fait du bien parfois d'en parler avec les amis. Non, il fait rien de tout ça. Il s'adresse direct à Dieu. Entends. Entends, Seigneur. Et ça, on sent qu'il déborde, hein. Car nous sommes méprisés. Et là, on a un texte dans la Bible qui nous dresse les cheveux sur la tête. Et un texte à ne pas imiter. Vous vous rendez compte? Il y a dans la Bible des choses à ne pas imiter. Vous vous en doutiez, j'imagine. Mais une prière à ne pas imiter, ça doit vous sembler bizarre. Quand il dit « Fais retomber leurs outrages sur leur tête, livre-les au pillage dans un pays de captivité, ne couvre pas leurs fautes, que leurs péchés ne soient jamais effacés devant toi, car ils ont contrarié les baptisés. » Alors, je vous conseille pas de prier comme ça. Alors, ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'on est sous l'ancienne alliance. On est sous l'ancienne alliance. Et que quand il priait comme ça, en fait, il savait, il connaissait par expérience le résultat de l'action de ces gens-là. En général, ces gens qui contrariaient les bâtisseurs, comme il dit élégamment, les gens qui s'opposaient à Dieu, ils savaient très bien que leurs outrages retombaient sur leur tête. Ils savaient très bien que c'est des gens qui finissaient mal, captivité, pillage. Et ils savaient très bien que Dieu ne couvrirait pas une faute pareille. Quelqu'un qui s'oppose à Dieu, qu'est-ce que vous voulez que Dieu fasse? Quand on s'oppose à Dieu, on n'a aucune planche de salut. Et que leur péché ne pouvait pas être effacé, puisqu'ils ne voulaient pas demander pardon. Donc, ils savaient. Mais il se permettait de le verbaliser comme ça, et ça, nous, on peut pas. On peut pas parce qu'on est sous la nouvelle alliance. Ce style de prière correspond à certains psaumes, on en trouve aussi dans les psaumes, hein, l'expression de l'homme de l'ancienne alliance face à l'injustice. Ils étaient sous la loi, faut pas l'oublier. La loi qui disait hein, l'âme qui pêche est celle qui mourra, Ézéchiel 18. Mais nous, Jésus est mort à notre place. On n'est plus sous cette alliance, hein, où la punition tombait comme ça. On n'a plus à prier comme ça, on n'a plus à prier comme Néhémie a prié là. Jésus a dit « Bénissez et ne maudissez pas, aimez vos ennemis. » Parce que Jésus est mort sur la croix, il a donné sa vie. Et les gens qui nous font du mal, on peut prier pour eux. Le meilleur exemple que j'ai au niveau du travail, c'était ceux qui l'ont connu, c'était Marine Mitton, qui était aide-soignante dans un hôpital, mais elle n'était pas chrétienne. Et elle avait une chrétienne avec elle, qui était infirmière, je crois, ou qui était aussi aide-soignante, je sais plus. C'était une antillaise, je me souviens. Elle était gentille comme tout. C'est resté son amie, d'ailleurs. Et elle détestait cette chrétienne, et elle lui en a fait voir de toutes les couleurs. Chaque fois qu'elle pouvait lui faire une vacherie, elle le faisait. Elle m'a dit, c'était l'horreur, elle lui a rendu la vie infernale. Mais cette femme, elle a prié pour Marilyn. Pendant des mois, je crois 6 mois, si mes souvenirs sont bons. C'est long, hein? 6 mois au travail avec une garce comme ça qui vous fait des misères. 6 mois. Mais après, elle a été patiente. Et au bout de 6 mois, Marilyn a demandé, mais pourquoi tu réagis comme ça? Et c'est comme ça que Marilyn s'est convertie. Elle est venue au Seigneur. Ses enfants aussi. Maryse est venue au Seigneur par Marilyn. Et vous voyez, le Seigneur. Si elle avait fait ce genre de prière, la jeune femme entière, je me souviens plus de son nom, ça aurait été terrible quand même. Hein. Dieu dit, bénissez, ne maudissez pas, aimez vos ennemis. Mais là, il faut se rappeler qu'on est sous l'ancienne alliance et qu'il ne faisait que répéter ce qui se passait en général quand les gens s'opposaient à Dieu. Dieu ne couvrait pas leurs fautes, c'est vrai. Leurs péchés n'étaient pas effacés. Donc, ce soit clair pour nous, hein, ces textes-là dans l'Ancien Testament, il faut les resituer dans leur contexte. Donc nous, on n'a pas à prier comme ça. D'ailleurs, Dieu dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. C'est Dieu qui décide de l'action à prendre avec nos ennemis. Donc même dans nos prières, Seigneur, fais-lui ça, non, bénissons. Seigneur, touche son cœur, change ses pensées, amène-le à te connaître, mais pas tape dessus. Voilà, c'est ça qu'on doit retenir, s'adresser à Dieu et lui confier la personne qui nous pose des problèmes. On ne répond pas à l'homme ou à l'ennemi, on dépose notre plainte à Dieu qui, lui, va décider de la conduite à tenir par rapport à nos ennemis. On ne prend jamais la vengeance dans nos mains, ni en parole, ni en acte, mais même pas en pensée. Attention à nos pensées, hein, parce qu'elles galopent, hein. Et parfois, elles sont pas jolies, jolies. Parce que quand on prend la vengeance dans nos mains, ça empêche Dieu d'agir à notre faveur. Si on est rempli de vengeance à l'égard de quelqu'un, Dieu ne peut plus bouger. Il refuse de bouger. On lui fait obstacle. Et c'est une brèche dans notre âme, une brèche de plus. C'est un accès à l'ennemi qui va amener dans notre cœur la rancœur, l'amertume et la colère. Donc prions, demandons à Dieu de faire sa volonté avec les gens qui nous posent des problèmes. Et s'il s'agit directement de Satan, l'ennemi de nos âmes, sachons que Jésus l'a déjà vaincu à la croix. S'il s'agit d'un ennemi intérieur, et on en a, hélas, hein, dans nos pensées, nos émotions, on a des émotions destructrices, hein, et ça c'est un problème. Si c'est un esprit de découragement, qui est notre ennemi, qui vient nous souffler, t'es minable, tu vas pas y arriver, esprit d'infériorité, ou de négativisme, il faut lutter contre ce genre d'esprit. On voit tout en noir. Ah bah, de toute façon, tu vas voir, il va se passer ça et ça. Hein. C'est l'histoire du cri que mon père racontait toujours ça. Ce monsieur qui tombe en panne sur la route, la nuit. Et puis, oh, catastrophe. Puis, il n'y a pas de cric dans sa voiture. Quelqu'un l'avait sans doute déplacé. Oh, il faut que j'aille chercher un cric. Alors, il commence à prendre la route, et puis il marche. Oh, puis... je crois qu'il y a un garage à 2-3 kilomètres, là ça va, je vais pouvoir y aller. Oui, mais bon, peut-être qu'il est fermé, peut-être qu'il est en vacances. Et puis, peut-être qu'il va pas vouloir me le donner. Puis il avance, puis il commence à vraiment mijoter ça dans sa tête, de plus en plus triste, de plus en plus négatif. Et puis bon, puis même s'il est là, il va pas vouloir m'ouvrir la porte. Et puis, il marche encore, et puis même s'il m'ouvre la porte, peut-être qu'il va pas vouloir me le donner. Enfin, à force d'être négatif, il arrive devant le garage, il frappe à la porte, le gars ouvre la fenêtre très gentiment, il lui dit « Monsieur, qu'est-ce qu'il faut ?»« Ouais, puis j'en ai rien à foutre de votre cric !» Pire pas. Tellement négatif, qu'il est arrivé à se persuader que les choses n'iraient pas bien. Mon père racontait toujours cette histoire. Mais voilà l'état de notre cœur quand on entretient un esprit négatif. C'est une brèche, hein. C'est une brèche qu'il faut boucher, hein, parce que c'est embêtant. On a tous un peu cette tendance, hein, quand les choses vont mal et qu'on est découragé. Ça va être de pire en pire, là, ça va être terrible. Jésus nous a donné l'autorité de refuser et de chasser ces choses-là. Pas de réfléchir ou de discuter intérieurement avec nos pensées. Bah oui, c'est vrai, Satan a raison, je suis minable, j'y arriverai pas. D'ailleurs, la dernière fois, j'ai essayé, je suis pas arrivée. Puis on commence à discuter avec nos pensées négatives, hein. Ça vous arrive jamais, ça? Ah oh, bah oui, c'est vrai, et puis non. Non, 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 non. Chassons ces pensées. Et faisons cet effort de dire, au nom de Jésus, je refuse ces pensées. Ce sont pas les miennes. Ce sont des pensées qui me détruisent. Je refuse d'être détruit. Hein? Alors là, on a des sportives. Je pense que si elles se levaient le matin en disant, je vais pas y arriver, elles auraient des problèmes. C'est vrai? Voilà. Et c'est vrai pour les sportifs. Et c'est vrai pour le sport spirituel aussi. Donc on discute pas avec nos pensées intérieures, on les chasse dans le nom de Jésus. Rappelons-nous qu'il a remporté toute victoire à la croix. C'est la promesse de la Bible. Alors ou c'est vrai ou c'est faux. Si c'est faux, pas de problème. Mais si c'est vrai, alors il faut le prendre. Et il faut se battre. Encore une fois. Comme je vous ai dit, moi je préférerais les pétales de rose, bien cool, mais bon. Voilà. Alors ils ont rebâti la muraille. Le verset 38 dit « Nous avons rebâti la muraille et toute la muraille fut achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur. » Et un verset qui a retenu mon attention énormément, « Le peuple prit ce travail à cœur. » Le peuple prit ce travail à cœur. Rebâtir nos vies, c'est le verset 38, à la fin. Pardon, on est au chapitre 4. 38:3, non ? Chapitre 3, verset 38. Alors, suivant les versions, faites attention. Suivant les versions, la découpe chapitre-verset n'est pas la même. Oui, bien sûr, mais la découpe n'est pas la même. C'est un des rares livres de la Bible où, suivant les traductions, on n'a pas la même découpe. Voilà. Voilà, mais bon, vous allez vous y retrouver quand même, vous inquiétez pas. Le peuple prit ce travail à cœur. Oui, je sais pas pourquoi, hein, mais suivant les traductions, la découpe n'est pas la même. Voilà. Alors, rebâtir nos vies, nos couples, nos familles, travail, associations, églises, etc., ça ne peut réussir que dans la prière, en remettant les obstacles à Dieu et en prenant notre travail à cœur. Ça, c'est un point important. Mais là aussi, il faut un équilibre. Je me souviens que l'adjointe qui travaillait avec moi, quand elle s'occupait des affaires sociales, et quand il y avait un gros cas social difficile dans la commune, elle ne dormait pas la nuit. Et je lui disais, mais enfin, Mme Bertrand, il faut quand même dormir la nuit. Vous allez être malade. En plus, elle était rhumatisante, donc c'était un peu un problème. Elle prenait trop à cœur. Je lui dis, mais vous prenez trop les choses à cœur. C'est bien d'y penser, de bien faire son travail. Donc, vous voyez, prendre à cœur, oui, mais il y a un équilibre à tenir. On va en parler après. Et je voudrais juste faire une petite aparté sur quelque chose qui m'a parlé, moi, dans le passé. C'est ce que la Bible appelle la négligence. Et un verset très surprenant, je crois que j'en ai parlé il y a des années, mais tout le monde n'est certainement pas au courant. Jérémie 48, verset 10, dit ceci. « Maudit soit, oula, c'est méchant, hein, maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre du Seigneur. » Surprenant comme verset. Moi, quand on me l'a lu la première fois, j'ai un peu sauté intérieurement. Waouh, à ce point-là, maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre du Seigneur. Ça m'a frappé. Et on va trouver dans Néhémie, hein, chapitre 3, verset 20, toute une famille qui répara avec ardeur. Dans Éphésiens 6, est-ce que vous vous rappelez dans l'armure du chrétien, qu'est-ce qu'on met aux pieds? Les chaussures du zèle. 1 Roi 19, 10, vous avez Élie qui est sous son genêt, là, qui rouspète, il se décourage d'ailleurs, et qui dit « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel ». Effectivement. Romains 12, 8, que celui qui dirige ou qui préside, suivant les traductions, le fasse avec zèle ou empressement, suivant les traductions. J'ai voulu vérifier un peu, parce que un verset c'est important, mais c'est important de voir les autres. Apocalypse 3, 19, vous savez, celui où dit que les tièdes seront vomis de sa bouche, il dit « Aie donc du zèle et repens-toi ». Et il y a une autre traduction que j'aime beaucoup. « Passionne-toi donc ». C'est plus moderne comme langage. Passionne-toi donc et change radicalement. Waouh ! Ça veut dire qu'il faut y aller, hein ? On ne peut pas faire l'œuvre de Dieu comme ça, en dilettante. Passionne-toi donc. Vous savez, l'absence de zèle, de passion, d'empressement, alors suivant les traductions, d'autres disent de bonnes dispositions, d'ardeur, voyez, mettez tout ça dans un paquet cadeau. C'est ça qui rend la vie chrétienne lourde, quand on n'a pas tout ça. C'est lourd, être chrétien. C'est pas marrant. Surtout quand on est jeune et que les autres font ceci, font cela. Si on n'a pas ce zèle, cet empressement, cette volonté, cette ardeur, ouah, est-ce que la vie chrétienne peut être pénible et ennuyeuse? C'est normal. C'est passionnant, la vie chrétienne, quand on s'y met à fond. Mais c'est casse-pied quand on n'y touche que du bout des doigts. Donc moi, je vous conseille un truc, allez-y à fond. Alors après, il faudra peut-être rééquilibrer un petit peu, comme avec l'adjointe qui travaille avec moi. Le zèle, parfois, peut être un peu charnel, et on se met tellement dedans qu'on voit plus le reste. Il faut faire attention. C'est Jésus qui porte les fardeaux des autres et les nôtres. C'est Jésus qui porte nos soucis. C'est pas à nous de nous soucier, Attention, il faut pas confondre, hein, de tout prendre sur soi. Quand on parle de zèle et d'empressement, on y va à fond. Mais on remet les choses au Seigneur. C'est un équilibre à garder qui est pas évident. Moi, je l'ai vu avec cette dame qui travaillait avec moi. Souvent, je l'admirais. Je me disais, oh, ma, elle, dis donc, elle se dépense pour la commune, elle y va, etc. Moi, je suis quand même un petit peu plus distante et tout. Peut-être que c'est pas bien. Enfin, bon, ça me faisait réfléchir. Et puis, quand je la voyais comme ça passer des nuits blanches, je me disais, non, quand même, là. Non, c'est pas ce que Dieu nous demande. Sauf si c'est pour prier, mais pas pour se faire du souci. Donc voilà, j'attire votre attention là-dessus, parce que si vous voulez une vie chrétienne passionnante, allez-y. Et surtout si vous êtes jeune, mais à tout âge, c'est vrai. Et je vois des gens qui ont 70, 80 ans, 90 ans, qui sont pleins de zèle pour le Seigneur. Je ne sais pas si vous vous souvenez ce vieux monsieur qui était venu prêcher une fois, qui pétillait. Je crois que vous en avez, je ne sais plus son nom, mais... Ben oui, pourquoi ? Parce qu'il est dedans. Il est dans ce qu'il fait, il a ses bonnes dispositions, cette ardeur, cet empressement, etc. Hein ? Et ça, ça fait toute la différence. Donc, il n'y a pas d'âge pour ça. Mais c'est pareil, hein, vous pouvez avoir 15 ans et avoir une vie chrétienne horriblement triste et ennuyeuse parce que vous n'êtes pas dedans. Et c'est long, et c'est fatigant, et aller à l'église, c'est long, et c'est casse-pied, et on y va parce que les parents vous emmènent. Ouh, bah c'est vrai, si on n'est pas complètement dedans, c'est difficile. Donc moi, je vous donne un conseil, allez dedans, pas avec négligence, mais avec zèle et ardeur, et vous verrez, c'est beaucoup plus intéressant. Beaucoup plus intéressant. On arrive au chapitre 4, avec notre fameux Sanballat, qui devient de plus en plus mauvais. Donc, on a revu l'évolution de leur méchanceté. Là, on arrive au point où ils conspirèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Ah là, ça se gâte. Là, ça se gâte. Quand ils ont vu que la moquerie, ça marchait pas, que les calomnies, ça marchait pas, que... Oh, ben alors là, maintenant, il n'y a pas à dire à l'attaque. Alors, je me suis posé la question, pourquoi ils n'ont pas levé une armée ? Ils avaient la possibilité. Hein. Ils avaient les hommes, ils avaient les armes, ils avaient l'argent. Pourquoi ? Ils entouraient Israël complètement, comme ça. Donc, Jérusalem n'avait vraiment aucun espoir de s'en tirer. Pourquoi ils n'ont pas fait une attaque frontale ? Alors, il y a plusieurs raisons. D'abord, ils avaient les lettres de recommandation du roi. C'était malvenu entre provinces perses de se faire la guerre. Ça se fait pas. Et puis, il y avait quand même la protection, loin. Il était loin, le roi de Perse. De ce côté, il était loin, le roi de Perse, mais il était quand même le roi et... Quand ça serait revenu à leurs oreilles, ça aurait sifflé, hein. Donc, c'était pas la chose à faire. Alors, il fait ce que le diable fait souvent avec nous. Vous savez, c'est pas toujours la grosse guerre frontale, c'est la guérilla. Et la guérilla, ça marche. Vous avez vu comment les États-Unis ont eu du mal au Vietnam? Chaque fois qu'il y a des opérations de guérilla, pourquoi en Afghanistan c'est si difficile? Pourquoi? Parce que la guérilla, c'est très difficile à gérer. Très, très difficile à gérer. Et ils ont décidé d'envoyer des infos. Ah, ça aussi, hein. Vous voyez, des infos qui font peur. Ils conspirèrent ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Il ne s'agissait pas de faire une armée, un choc frontal, un gros truc. Non. Lui causer du dommage. Et c'est comme ça que le diable procède souvent dans nos vies. La malveillance, moquerie, mépris, accusation, calomnie, colère, insulte, découragement. Et maintenant, attaque directe, mais par petites attaques, par petites guerres, on dirait, petites batailles. Et alors, comment réagit Néhémie? Mais, il y a tout mais, j'aime bien dans ce texte, mais nous avons prié notre Dieu. Waouh. Et alors? Qu'est-ce qu'on va faire en face d'une attaque frontale, juste en priant? Nous avons prié notre Dieu et, à cause d'eux, nous avons mis en place une garde jour et nuit pour nous défendre. Là, la prière était nécessaire, indispensable, mais il fallait aussi ajouter une garde, nuit et jour, pour nous défendre. Et il y a des périodes comme ça où l'église est attaquée, où notre famille est attaquée, où notre santé est attaquée, etc., où il faut non seulement prier, mais mettre en place une garde. Quelle que soit sa forme, ça peut être un temps de jeûne et prière, ça peut être des amis avec lesquels on va prier, ça peut être d'autres actions de protection. Néhémie répond d'abord par la confiance en Dieu, vous vous souvenez, la première réaction aux premières attaques. Puis ensuite, prière et confiance. Ensuite, prière avec les frères et il met en place une garde. Et pendant tout ce temps-là, il continue à travailler. Donc les choses empirent, hein. Et à chaque fois, la réaction augmente. Visiblement, c'est Dieu qui va conduire Néhémie à adopter la bonne stratégie. Ce n'est pas d'ailleurs la même à chaque fois. Vous avez vu, à chaque fois, il réagit de façon différente. Mais la troisième fois, c'est prière plus action. Jusqu'à présent, il n'y avait pas eu. Il y avait juste, on travaille. Confiance, travail, mais il fait ce qu'il faut pour assurer la sécurité des travailleurs. Et ça aussi, c'est un bel exemple d'équilibre. Un équilibre entre le spirituel, l'émotionnel et le physique. Âme, corps, esprit. Hein. Entre la prière, la confiance au niveau des émotions et la garde au niveau physique. Voyez, on suit le schéma esprit, âme, corps. Le Saint-Esprit, quand il travaille avec nous, il travaille sur les trois domaines. Il ne laisse pas de côté notre corps, comme auraient voulu les Grecs, hein, le corps, c'est pas important. Non, non, non. Il ne laisse pas à côté notre âme, nos sentiments. Évidemment pas notre esprit. Le Saint-Esprit, je trouve que c'est une bonne image. Il travaille sur les trois. Corps, âme, esprit. Quel équilibre. Le Saint-Esprit veille sur nous et en cas d'attaque, eh ben, il va nous prévenir. Il va nous demander de nous préparer. Et en fait, ils étaient arrivés à un point extrêmement délicat. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça en votre vie. Moi, je pense à ceux qui sont au collège. Quand on arrive en quatrième, troisième, bon, on a un bon bout de scolarité qui est fait. Mais quand on regarde devant, d'accord, 5 ans, 6 ans, waouh, on est au milieu, vers la troisième. On est à peu près au milieu de ses études. Et c'est le point le plus délicat, parce que c'est le moment où les travaux sont arrivés à mi-parcours. L'enthousiasme du début s'est calmé, et la fin des efforts n'est pas encore en vue. Ah, ça, c'est désagréable. C'est comme quand on est dans un tunnel. On voit plus l'entrée, on voit pas la sortie. Il y a des moments dans notre vie, je suis sûre que ça vous rappelle quelque chose. Des moments dans notre vie, on est dans un tunnel, on voit pas l'entrée, on voit pas la sortie. Quelquefois, c'est parce qu'il y a un tournant. Pas s'inquiéter, la sortie est pas forcément loin. Mais n'empêche que ça fait un sale effet. Et quand l'enthousiasme du début s'est calmé et que la fin des efforts n'est pas encore en vue, c'est le moment où on est le plus vulnérable aux attaques de l'ennemi. C'est le moment où l'ennemi va nous attaquer et c'est là que Néhémie va devoir combattre. Mais le pire, c'est qu'il n'y a pas que l'extérieur maintenant. Il va y avoir des problèmes à l'intérieur. Qu'est-ce que disent les gens ? Judas disait, les forces des porteurs vacillent. Vous imaginez, les grosses pierres qu'ils devaient porter, c'était pas des petits cailloux comme ça. Donc il fallait qu'ils se mettent à plusieurs, des pierres taillées énormes. Regardez sur les photos, là sur Internet, les pierres de la muraille. Vous savez où ils prient les juifs, là, le mur des lamentations. Vous aurez une petite idée de la grosseur des pierres. Donc les forces des porteurs vacillent, les décombres sont considérables. Nous ne parviendrons jamais à bâtir la muraille. Ça y est, ils commencent à se décourager. Jusque-là, ils avaient tenu, jusqu'à la moitié de la muraille. Et vous n'allez pas me dire le contraire, c'est factuel, c'est objectif et c'est vrai. Les forces diminuent, oui. Les décombres sont immenses, c'est vrai. C'était vrai au début et c'est toujours vrai. Ça a baissé, mais c'est tout. Mais, alors, si c'est la vérité, on se décourage? Eh ben non. C'est vrai aussi qu'il était impossible de marcher sur l'eau. C'est vrai aussi qu'un enfant ne peut pas abattre un géant. On est tous d'accord. C'est vrai qu'un lépreux, à l'époque, ne pouvait pas guérir. C'est vrai qu'un esclave hébreu n'aurait jamais pu devenir premier ministre d'un pharaon, si Dieu n'avait pas permis que ce soit pas la même famille de pharaon. C'est historique. C'est vrai qu'un pharaon ne va pas libérer des esclaves qu'il exploite. Non mais oh, un peu de bon sens. C'est ça la vérité. C'est vrai que c'est pas possible que l'eau sorte d'un rocher et abreuve tout un peuple. C'est pas possible. C'est impossible qu'un roi accepte de se repentir après avoir fait des grosses bêtises comme David. C'est impossible qu'un persécuteur devienne apôtre comme Paul. C'est impossible qu'un mort ressuscite. C'est impossible que la mort d'un seul juste nous libère du péché, nous des millions et des millions de gens. Tout ça, c'est des impossibilités. Et alors, ça pose problème à Dieu, ça? Comme dit si bien Julie, mais Dieu. Si nous regardons qu'à ces choses vraies, parce que souvent les gens me disent, mais c'est vrai! Ben oui. Si nous regardons qu'à ces choses vraies, humaines, logiques, vous avez déjà entendu ça, mais c'est logique, voyons. C'est raisonnable. Si on regarde qu'à ces choses vraies, humaines et logiques, alors comme Pierre, on va couler. Vous vous souvenez quand il a regardé l'eau? Oups! Et la conclusion se fait pas attendre. Nous ne parviendrons jamais à bâtir la muraille. Ça, c'est la vérité. Si on regarde uniquement les faits concrets, objectifs. Mais si on suit ce chemin, moi, je vais vous dire, on a tout à perdre. Combien de fois on est tenté de faire ça? Je suis sûre que vous êtes comme moi, On est tenté de dire, bah, il faut quand même être objectif, faut regarder la situation, il faut être logique. Mais moi, je vous dis que si on fait ça, on a tout à perdre et on n'a rien à gagner. Rien. Choisir le découragement, c'est faire le jeu de l'ennemi. C'est ce qu'il cherche depuis le début, depuis Adam et Ève. C'est son boulot, c'est son métier. Nous empêcher de construire et nous empêcher de reconstruire. Ceci étant, je juge une petite aparté, dans certains cas, il faut consulter le Seigneur, parce qu'il y a des situations dans notre vie, travail ou autre, où Dieu peut nous arrêter, mais c'est différent. Dieu nous arrête pas par le découragement. Quand Dieu nous arrête, c'est par des, il nous parle, il parle à notre cœur, il nous donne une paix, il nous donne une conviction, il nous donne des confirmations claires, souvent des textes de la Bible très clairs, pas des textes tordus, hein, textes clairs. Et souvent, il faut observer les fruits et l'attitude qu'on a dans notre cœur et nos motivations. Donc il y a des moments où Dieu peut nous arrêter dans un travail qui nous semble être un travail de construction. C'est vrai. Mais voyez que c'est pas la même chose. C'est pas, j'y arriverai jamais, etc. C'est Dieu nous parle, il nous donne des convictions, des confirmations, on est dans la paix. Ah, nous, on l'a vécu il y a pas très longtemps. Quand on a une paix, une assurance qu'il faut arrêter certaines choses, on est en paix et on sait qu'on fait ce que Dieu nous demande. C'est pas la même chose. C'est pas, oh, regarde tout ce qu'il y a à faire, on va jamais y arriver. Non, non. Hein, donc, il faut faire attention. Ça, c'est une petite aparté. Mais pour le reste, si c'est pas Dieu qui nous arrête, soyons fermes et regardons pas aux choses logiques qui ont l'air vraies, etc. Il faut y aller. On reconstruit avec l'aide du Seigneur. On a tous tendance à nous décourager quand les choses n'avancent pas assez vite. Surtout à notre époque. Hein. Quand c'est dur. Quand notre corps et notre âme sont fatigués. Et c'est justement à ce moment-là qu'il faut lever les yeux vers Jésus, comme Pierre. Demander son aide et lui demander ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Les fêtes plus le découragement, c'est pas tout. Le pauvre Néhémie doit faire face en plus à toutes les paroles de l'adversaire. On va les prendre par surprise. Ils ne verront pas venir. On va les tuer et faire cesser le travail. Ah bah c'était clair là, hein. Il y avait plus, c'était plus que de la moquerie, c'était, allez. On va les prendre par surprise, ils ne verront pas venir, on va les tuer et faire cesser le travail de reconstruction. Ça c'est ce que l'ennemi préfère. C'est ce que le tigre préfère, un petit tigrou. C'est vraiment ce que l'ennemi préfère. Prendre les par surprise. Quand on s'y attend pas. Ils verront pas venir. Moi, j'aime ce verset. On imagine, là, le lion. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Et on voit bien le lion qui est tapis. Il regarde la petite antilope qui s'éloigne du troupeau, qui va boire dans un petit coin. Il est là. Ah, ses yeux brillent. Vous regardez ça à la télé quand il y a les documentaires sur les animaux. Moi, je raffole de ça. Vous voyez ses yeux, là. Wouhou! Par surprise. Il saute. Et c'est ça, l'adversaire. On va les prendre par surprise, ils verront pas venir. Ils verront pas venir. Mais ça, c'est ce qu'ils croient. Les Juifs sont prévenus. C'est ça qui est beau dans ce texte. Ils sont prévenus. Dieu permet que l'information passe. Et je vais vous dire un truc. Souvent, Dieu nous prévient des stratégies de l'ennemi. Dieu nous prévient. Il nous prévient dans la Bible. Juste à une certaine période, on va lire un passage qui va faire bip bip. Ça me concerne, ça. Il va nous prévenir quelquefois par les avertissements des frères et sœurs en Christ. Et là, vous utilisez le discernement. Pareil, hein. C'est pas parce que un chrétien, un pasteur ou n'importe qui va nous dire quelque chose que c'est parole de Dieu, absolument, hein. Attention, hein. Soyons toujours prudents avec les paroles de discernement, les paroles de prophétie. On n'est plus dans l'Ancien Testament. Là non plus. Et c'est pas du 100%. Les gens peuvent se tromper, ils ont le droit. Je peux me tromper, André peut se tromper, les fêtes qui passent peuvent se tromper. La Bible demande, qu'est-ce qu'elle demande? D'écouter les paroles de prophétie et de retenir ce qui est bon. Et d'éprouver, oui, d'éprouver les prophéties. Donc c'est pareil aussi pour ça, hein, quand les gens nous préviennent. Mais il faut au moins prendre soin d'éprouver les paroles qui nous sont données. Et je peux vous dire que nous, dans le passé, on a eu 5 personnes qui nous ont prévenus d'un danger. On n'a même pas pris le temps d'éprouver leurs paroles. On l'a bien regretté, croyez-moi. Donc, quand les gens nous préviennent, prenons au moins le temps d'éprouver, est-ce que ça vient de Dieu? Et ne méprisons pas les paroles des gens, même si c'est peut-être des gens bizarres, même si c'est le pasteur, bizarre d'ailleurs un petit peu. Mais prenons le temps d'éprouver, est-ce qu'il a raison? Est-ce qu'elle a raison? Est-ce que ça vient de Dieu ou pas? Mais ne jetez pas à la poubelle les paroles. Quand quelqu'un vous prévient d'un danger, on écoute, après on éprouve. Si ça vient pas de Dieu, panier, vous avez le droit, il n'y a pas de souci. Et si ça vient de Dieu, alors soyons prudents. Hein? Dieu parle à notre cœur, il faut écouter sa voix. Donc il y a les dons de prophétie, le discernement, sachant qu'on doit éprouver les esprits et retenir ce qui est bon. Les Juifs sont prévenus et ils écoutent. Néhémie a entendu le message, ils vont vous prendre par surprise, vous êtes prévenus. Il va réunir les notables, les magistrats, le peuple. Il va équiper le peuple, organiser la défense en privilégiant les lieux fragiles. Et il va les encourager. C'est le rôle du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit fait ça pour nous. Je pense que je dois m'arrêter là. Mais on verra ça après. Il va leur dire, entre autres, n'ayez pas peur d'eux. Hein? On le reverra la semaine prochaine. Souvenez-vous du Seigneur, grand et redoutable, d'eux, et combattez. Ça fait beaucoup, hein. N'ayez pas peur. Souvenez-vous du Seigneur et combattez. Moi, je vais vous laisser avec ce message et que le Seigneur vous conduise. Et quand il vous prévient, n'ayez pas peur. Souvenez-vous du Seigneur et combattez. Seigneur, merci pour ta parole. Merci de la bénir dans chacun des cœurs. Et je te demande vraiment qu'elle puisse être mise en pratique dans ma vie, dans notre vie en tant qu'Église, dans la vie de chacun en particulier. Que nous puissions le mettre en pratique afin de glorifier ton nom et d'être à l'abri de ta main. Merci pour le Saint-Esprit qui nous protège, qui nous console, qui nous encourage, qui nous prévient. Donne-nous, Seigneur, ta sagesse et qu'on puisse vraiment avancer avec toi en sécurité, en bouchant nos brèches, Seigneur. Amen.